7h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une ce matin, l'opération Ascanite au Tchad, dans la région du lac Tchad, où l'armée combat désormais au sol les djihadistes de Boko Haram. Armée tchadienne qui reconnaît avoir perdu 17 de ses hommes ce samedi, mais dit aussi avoir infligé des pertes bien plus importantes aux djihadistes. Le lac Tchad et sa région en première ligne aussi face au changement climatique. Nous serons un peu plus au sud, à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun, alors que débute aujourd'hui à Bakou en Azerbaïdjan la COP29, deux semaines de négociations internationales, justement sur les moyens de faire face aux conséquences d'un climat qui s'emballe. Dans ce journal également, le Cameroun aussi, où est prévu à Yaoundé une nouvelle audience aujourd'hui au procès de l'assassinat l'an dernier de l'animateur radio Martinez Zogo. Audience aujourd'hui encore consacrée à des questions techniques. L'Afrique du Sud, on vous raconte le bras de fer entre la Société nationale d'électricité et la ville de Johannesburg qui pourrait se retrouver sans courant le mois prochain. Et puis notre dossier ce matin à l'occasion de la réédition de La parole aux négresses, un ouvrage d'anthropologie qui faisait entendre la voix des femmes sénégalaises dans les années 1970 et qui résonne encore aujourd'hui. Les chiffres donnent une idée de la teneur des combats au Tchad, dans la région du lac Tchad. L'armée a lancé la phase au sol de son opération Ascanite, opération de représailles contre les djihadistes de Boko Haram, après que ces derniers ont tué une quarantaine de soldats tchadiens à la fin du mois d'octobre. Hier, l'état-major tchadien a communiqué sur des combats qui se sont déroulés samedi. L'armée reconnaît 17 morts dans ses rangs, mais dit avoir infligé des pertes bien plus importantes à ses ennemis. N'Djamena, les précisions de Carole Valade.
L'armée affirme avoir tué près d'une centaine de combattants dans les rangs de la secte djihadiste Boko Haram, aujourd'hui scindée en deux factions rivales, tandis que 17 soldats tchadiens auraient perdu la vie dans cet accrochage de quelques heures, selon les termes de l'état-major. Le président Mahamat Idriss Déby a rendu hommage aux martyrs tombés en défendant la patrie. Dans un message publié depuis N'Djamena, après une dizaine de jours passés dans la région du lac à commander les opérations et réorganiser les troupes en vue d'une vaste offensive terrestre contre les djihadistes. L'identité des militaires décédés n'a pas été rendue publique, mais on trouve sur les réseaux sociaux tchadiens de nombreux messages de condoléances affichant la photo de soldats ainsi que de plusieurs officiers supérieurs, dont des généraux. Le chef de l'État a présidé ce dimanche une réunion des forces de défense et de sécurité en présence du Premier ministre et des commandants des grandes formations militaires avant de s'envoler à nouveau, cette fois vers l'Arabie Saoudite où se tient le sommet arabo-islamique. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
De nombreux autres chefs de gouvernement et d'État seront eux à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, où débute aujourd'hui la COP29, deux semaines de négociations sur les moyens financiers pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique. En 2009 avait été fixé un objectif de 100 milliards de dollars par an, mais pour le négociateur en chef de la RDC, il en faudrait aujourd'hui au moins 10 fois plus.
On veut que cet objectif ne soit plus un chiffre politique, un chiffre rond qui sonne bien aux oreilles, mais que ce soit véritablement un objectif qui soit en adéquation avec les besoins des pays en développement. Et donc le groupe africain, lui, estime qu'il faudrait en fait 1 000 à 1 300 milliards de dollars par an mobilisés pour pouvoir aider les pays en développement, les pays africains, pour qu'on puisse être en droite ligne avec les objectifs que nous fixe l'accord de Paris, à savoir la limitation de hausse de température de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et donc, on ne parle plus de milliards de dollars, on ne parle plus de 100 milliards de dollars, mais on parle de milliers de milliards de dollars, en fait. Et nous espérons également, bien entendu, que ce financement, s'il est mobilisé, aura de meilleures modalités d'accès et de déboursement, parce que souvent, l'argent est là, mais on n'arrive pas à y accéder. On espère également que ce sera prioritairement du don, au lieu que ce soit des prêts qui soient onéreux.
Tosim Panumpanu, négociateur en chef de la République démocratique du Congo à la COP29, joint par Jeanne Richard, et cet objectif de plus de 1 000 milliards de dollars, mais aussi les conséquences potentielles du retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump. On les évoque aussi avec notre invité ce matin, Seni Nafo, le porte-parole du groupe des négociateurs africains à cette COP. Entretien avec Christophe Boisbouvier, à écouter après ce journal et à retrouver sur RFI.fr. Une COP donc où l'on parlera notamment notamment des moyens de faire face au changement climatique, un dérèglement et son adaptation qui sont déjà des réalités, par exemple dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Avec le début de la saison sèche, les fortes chaleurs peuvent perturber la tenue des cours. Et à Maroua, le chef-lieu de la région, l'organisation U-Reporter, un projet de l'UNICEF, a planté des arbres dans les cours d'école, ce qui crée de l'ombre et ce qui permet de maintenir les enfants à l'école. Reportage de Richard Onanena.
C'est en train de creuser.
Machette à la main, casquette sur la tête pour se protéger du soleil ardent. Alexis, un volontaire de 23 ans et ses camarades de l'association U-Reporters plantent des arbres dans la cour de l'école publique de Maroua-Palard. Aïssatou coordonne l'activité.
Aujourd'hui, on a prévu planter des nîmes, les nîmiers. C'est d'ailleurs une plante qui procure assez d'ombre et qui grandit rapidement.
L'idée, créer de l'ombre pour les élèves de cette école primaire, car ici, au pied de la petite montagne Safina, comme dans plusieurs localités de la région de l'extrême nord du Cameroun, la chaleur atteint des températures records, plus de 45 degrés à l'ombre en saison sèche et perturbe la tenue des cours. Yao Marguerite est la directrice de l'école.
Les enfants se sentiront mieux à l'abri du soleil quand il fait chaud. C'est pénible par ici. Et c'est une joie pour nous d'avoir ces arbres-là. Et surtout qu'ils sont fruitiers.
Plusieurs élèves de l'établissement participent à l'activité, car une fois les U-Reporters partis, ce sera à eux d'assurer l'entretien et l'arrosage des arbres. Un autre combat selon Kouéba Larabé, qui dirige le groupe 2 de l'école.
Et regrouper les classes. On fait ça le matin, parce que les plants, c'est mieux le matin. Dans l'après-midi, ça chauffe. Donc de 7h30 à 8h, c'est l'arrosage. Après l'arrosage, on est dans les salles de classe.
Avec le soutien de l'UNICEF, cette association qui lutte contre les changements climatiques a planté plus de 200 arbres dans les écoles primaires de l'extrême nord Cameroun, victimes d'une intense désertification. Richard Onanena, de retour de Maroua, RFI.
Le Cameroun, où une nouvelle audience est prévue aujourd'hui à Yaoundé, mais on ne devrait toujours pas évoquer le fond de l'affaire. Audience au procès de l'assassinat de Martinez Zogo, ce journaliste star camerounais retrouvé mort au début de l'année à Yaoundé. Nouvelle audience aujourd'hui donc, une nouvelle fois consacrée à des questions de procédure, comme c'est le cas depuis l'ouverture du procès au mois de mars. Et pour maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo, si cette procédure traîne en longueur, c'est de la faute du tribunal.
À ce rythme, moi je peux vous dire que je pense que 2026 nous trouverons encore dans ce procès. Si le tribunal militaire n'avait pas eu cette attitude dès le départ de ne pas nous communiquer le dossier, nous n'en serons pas à ces exceptions, à ces incidents qui sont soulevés de manière continue. La responsabilité de la lenteur de cette procédure revient au tribunal militaire, même s'il y a des exceptions qui sont tout le moins farfelues. Mais c'est les droits de la défense, c'est le droit des avocats de faire valoir leurs droits. Mais c'est aussi au tribunal militaire d'éviter des blocages, d'éviter des obstacles en communiquant le dossier. Une fois qu'on en a communiqué aux parties, je pense qu'il y aura plein de questions, de zones d'ombre qui n'auront plus besoin d'être soulevées avant que les débats au fond ne soient ouverts devant le tribunal militaire.
Maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo, joint par Amélie Tulé. Et l'une des questions de procédure de ces derniers mois, c'était notamment la question pour les avocats d'avoir accès au dossier. Le tribunal les autorise uniquement à le consulter sur place, sans avoir le droit de faire de copie. Et c'est maintenant la Cour suprême camerounaise qui est saisie de cette question. Dans l'actualité ce matin également, l'île Maurice, à l'heure du dépouillement, après les élections législatives hier, les urnes ont été ouvertes ce matin pour compter les voix, un scrutin dont on sait déjà qu'il a beaucoup mobilisé, avec une participation établie à 77% des électeurs inscrits. Les résultats devraient être connus aujourd'hui. Cette question maintenant, la ville de Johannesburg en Afrique du Sud va-t-elle passer le mois de décembre dans le noir? La menace vient d'Eskom, la Société Nationale d'Électricité, qui a un différend financier avec la ville. En jeu tout de même, une ardoise de plusieurs centaines de milliers d'euros non réglée par Johannesburg. Et alors que les représentants de la ville dénoncent une menace, je cite, « nuisible aux habitants et aux entreprises », une rencontre est prévue aujourd'hui entre le ministre de l'Électricité et le maire de Johannesburg. Correspondance de Valentin Hugues.
Une rencontre pour empêcher Eskom de couper le courant. Le maire de la ville, Dada Morero, et le ministre Rosiento Ramoropa disent vouloir trouver une issue à ce nouveau conflit qui oppose Eskom à la ville de Johannesburg. Un conflit donc entre le vendeur et l'acheteur d'électricité. Chaque camp se renvoie la balle. Eskom, le fournisseur, demande à la ville de régler sa dette. Réponse de la ville, Eskom surfacture et réclame trop d'argent. plusieurs milliards de rands sud-africains, quelques centaines de milliers d'euros. Mais Eskom entend bien faire pression pour obtenir son argent avec un argument de taille. En cas de non-paiement, l'entreprise plongera Johannesburg dans le noir au mois de décembre, en plein cœur de la saison festive et animée. Dans un communiqué, la ville dénonce une menace de coupure nuisible aux habitants et aux entreprises et réclame un dialogue apaisé sans exclure d'avoir recours à la justice. Car ces coupures à grande échelle ont longtemps été monnaie courante ici en Afrique du Sud. Seulement, elles avaient cessé depuis plus de 5 mois. La ville entend bien continuer sur cette voie alors que le pays semble doucement sortir de sa crise énergétique. Valentin Huc, Johannesburg, RFI.
Et puis, on peut avoir 46 ans et être toujours d'actualité. Notre dossier ce matin est consacré à la réédition de La parole aux négresses, un ouvrage dans lequel l'anthropologue sénégalaise Awa Thiam s'était intéressée aux femmes du Sénégal et des pays voisins. Un ouvrage aujourd'hui parfois étudié dans les universités aux États-Unis, mais qui était introuvable au Sénégal. Désormais, les choses changent et la maison d'édition qui le réédite organise aussi des rencontres littéraires pour faire connaître le texte et les problématiques qu'il aborde. Reportage à Dakar, Léa Lisa Vesterhoff.
Installée face à une vingtaine de femmes, Dei Fatou Kan, doctorante en sociologie, lit un extrait de La parole aux négresses. Dans l'audience, Fatoumata Diallo, ingénieure en finance, ne se remet pas du choc éprouvé à la lecture de l'ouvrage.
J'ai ressenti une actualité qui m'a surprise et j'ai regardé à nouveau la date où ce livre est sorti, fin des années 70, et en 2024, nous sommes encore en train de parler des mêmes sujets, des violences morales, physiques, économiques.
Publié en 78, Awa Thiam est la première africaine à oser faire état des problèmes qui gangrènent la vie de ses sœurs sénégalaises, guinéennes, maliennes et ivoiriennes. Pour la réalisatrice et militante Fatoua Rassemble, ces témoignages sont un outil précieux.
Parce que Awa Thiam a abordé tous les sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Ouais, on parle de dépigmentation, de la polygamie, de tous ces sujets-là. Et elle a visibilisé la parole des femmes pour nous faire entendre. Parce que quand tu es une femme et que tu parles de certains sujets, les gens vont vous dire soit tu es folle, ça se passe dans ta tête. On essaie de te dire que ce que tu dis là n'existe pas.
Est-ce la raison pour laquelle l'ouvrage a disparu des librairies francophones dans les années 80? Dei Fatou Kan, écrivaine et préfacière de l'ouvrage, confirme qu'il est toujours aussi difficile de porter le combat.
Parce que nous, féministes sénégalaises, sont toujours accusés de pervertir les sociétés, de travestir les valeurs et que le féminisme est une idéologie qui vient d'ailleurs. Donc ça remet le débat au centre sur notre perspective féministe sénégalaise.
L'objectif, qu'Awa Thiam soit un jour enseignée à l'université au Sénégal. En attendant, 2000 exemplaires de son livre ont été imprimés au Sénégal. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et pour le directeur de la maison d'édition Saraba Édition, Souleymane Gueye, ce livre est autant un témoignage d'époque qu'une base de réflexion pour le présent et pour l'avenir.
On est un peu une caisse de résonance et on découvre comme ça des titres qui appartiennent au patrimoine littéraire africain, qui sont très importants, mais qui malheureusement ne sont plus disponibles ici au Sénégal. Et donc l'idée est partie de là. C'est à lire pour les nouvelles générations, pour faire avancer les causes des femmes. Le premier mal qu'elle évoque, c'est la clitorectédomie. L'excision, voilà, qui se pratique encore, même s'il y a des avancées. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire dans ce domaine-là. Elle parle de la polygamie institutionnalisée. Donc en 2024, je pense que le sujet ne pouvait pas être plus sur la table par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal avec l'élection du nouveau président qui est polygame. Mais même au-delà de ce président, ce qu'on constate aussi à travers des discussions, à travers des témoignages, des émissions radio, c'est que dans les nouvelles générations, on aurait tendance à croire que la polygamie est de plus en plus délaissée, mais non, il y a des femmes qui assument d'être polygames. Elles parlent de la dépigmentation. Donc en fait, que des sujets qui sont contemporains. Mais en 78, d'avoir déjà eu cette vision de parler de problèmes qui sont spécifiques aux femmes noires, aux femmes africaines, et que 46 ans après, l'ouvrage n'a pas pris une seule ride, quoi.
Souleymane Gueye, le directeur de la maison d'édition Saraba à Dakar, au Sénégal, où il est maintenant 6h44. Et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.